Merci pour cette invitation qui me permet de parler d'un pays qui m'est cher. Et je voudrais vous faire partager mon enthousiasme pour la découverte de ce pays et l'histoire de ce pays qui, pour les géographes, est quand même étonnant de par sa taille et de par son histoire, parce qu'il est resté un grand pays, contrairement à l'Empire espagnol qui s'est divisé. Donc voilà, dans le destin de l'Amérique du Sud, quelle est la particularité de cette terre brésilienne ? Alors, en plus, le Brésil est le seul pays du monde à avoir comme nom le nom d'un arbre, hein, Pau Brasil, de cette couleur de braise qui a été son premier produit exporté vers l'Europe, et aussi d'être un pays jeune, bien sûr, que les Européens ont commencé à découvrir à partir de 1500. Donc, c'est pour cela qu'il a 5 siècles. Et que 5 siècles, c'est jeune, hein, sur l'histoire de la planète. En plus, le Brésil a aussi une autre particularité, c'est qu'il avait sa taille dès son indépendance. Même avant, à l'époque coloniale, il avait déjà sa taille, les 8 millions de kilomètres carrés. Donc, contrairement par exemple aux États-Unis, qui au moment de l'indépendance avaient 13 provinces, province atlantique. Le Brésil avait déjà sa taille. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi un aussi grand pays a pu se définir et se maintenir dans cette forme, dans une histoire qui s'est faite en 3 moments, disons, pour comprendre cette formation nationale. D'abord, une enveloppe territoriale, un territoire, une enveloppe, hein, c'est-à-dire la délimitation de ce grand pays, au début, c'est-à-dire dès la découverte, 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle. Ensuite, un État, l'État, la gouvernabilité de ce territoire, disons, s'est forgée au 19e siècle après l'indépendance, sous la forme d'un empire, on verra. Et puis le peuple brésilien, parce qu'en fait, avant, on avait un peuple divisé entre maîtres et esclaves. Et la naissance du peuple brésilien, ça date plutôt du début du XXe siècle. Donc on va essayer de comprendre ces différentes phases. Dans un raisonnement que j'appelle géohistorique, hein, c'est-à-dire qu'il prend à la fois le temps et l'espace pour expliquer une formation territoriale. Alors il y a des éléments de géographie historique, des éléments de géographie culturelle, des éléments de géographie économique, de géopolitique, etc. Donc, ce qui nous a fascinés, nous aussi, les géographes, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui passent par les cartes. Or, souvenez-vous que les Portugais ont été de grands explorateurs maritimes dès le début du XVIe siècle. Ils ont découvert les côtes africaines, hein, sous la férule de Henri le Navigateur, disons, au XVe siècle, qui a fait son école de pilote à Sagres et qui a entrepris l'exploration systématique des côtes africaines. Alors l'île de Madère en 1427, puis le golfe de Guinée, etc., jusqu'à ce que les Portugais réussissent à doubler le cap de Bonne-Espérance, hein, en 1488. Donc c'est une découverte progressive de la côte africaine. Puis la découverte de l'océan Indien, hein, et la navigation sur l'océan Indien pour aller jusqu'en Inde et revenir, ce qui a été aussi extraordinaire. Ça, c'est Vasco de Gama, 1497-1499, un voyage aux Indes, aller-retour. Alors que Christophe Colomb cherchait les Indes à l'ouest, les Portugais cherchaient les Indes à l'est. Hein. Et donc, il y avait cette fameuse découverte du monde de la du planisphère, disons, que l'on connaissait très mal, évidemment. Et en 1500, une flotte portugaise à destination de l'Inde touche une terre qui n'est pas une terre africaine, hein, et qui ou emmenée par les alizés, hein, on le verra, et c'est la découverte de Pedro Álvares Cabral avec la première description de Pero Vaz de Caminha, qui est la première description du Brésil, donc qui est gardée dans un musée de l'histoire du Brésil. Donc la création du monde atlantique Nous chercherons à montrer comment l'Amérique est une continuation de l'Europe vers l'Ouest. Alors d'abord pour les pêches, en zone de pêche en Atlantique Nord, puis les tropiques américains, hispaniques d'abord, et portugais ensuite. Et portugais, vous voyez, c'est un angle des îles du Cap-Vert, vers la pointe la plus orientale du Brésil. C'est une séquence d'intégration géographique, on pourrait dire. On explore tout d'abord, on conquiert si on arrive à y rester de façon un peu stable, et à la fin du XVIe siècle, les Portugais ont commencé des plantations. Et on peut dire que c'est la première colonie agricole hors d'Europe, faite par des Européens hors d'Europe. Et c'était des plantations de sucre, hein, nous le reverrons. Donc c'est un engagement progressif vers l'Ouest et la découverte d'une terre dont on ne connaît pas bien la forme, hein, et qu'on pense pendant un moment être les Indes occidentales, parce que Christophe Colomb percevait comme les Indes occidentales. Donc l'expédition de Pedro Álvares Cabral, partant donc du sud du Portugal et arrivant sur les côtes de la Bahia, et le premier récit de ces côtes, en fait, revenu en Europe, a été le fait d'un pilote italien, parce que les Portugais avaient la manie du secret. C'est-à-dire que l'école de pilotes de Sagres, les pilotes ne devaient jamais dire ce qu'ils trouvaient, ce qu'ils voyaient, quelles coordonnées, etc. Donc, par contre, les Italiens n'avaient pas cette même culture. Et donc, Américo Vespucci a fait des récits de ses escales sur cette nouvelle terre trouvée dans l'Atlantique. Et en fait, cette terre, l'expédition de Pedro Álvares Cabral l'a touchée, mais n'y est pas restée, puisque son but, c'était les Indes. Ils ne devaient pas aller. Donc, ils ont fait revenir un bateau. Ils sont restés 10 jours, les Portugais. Donc, vous voyez, mais c'est... Il y a eu des peintres du 19e siècle qui ont commencé à représenter cette scène, la première messe sur le territoire sud-américain, disons, et qui est le premier pas que les Portugais font en Amérique avec les Amérindiens, alors qu'ils sont toujours magnifiés dans les peintures du 19e siècle, mais on ne sait pas exactement comment ça s'est passé au 16e. Donc 10 jours, et ensuite ils repartent, ils envoient un bateau à Lisbonne pour raconter la découverte, et le début de la représentation cartographique du Brésil, ça c'est une carte de, je crois que c'est la carte de Cantino, celle-là, oui, de Cantino, 1502, donc vous voyez, avec des peintures et des dessins, parce qu'on ignorait à peu près tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc on a vu des arbres, des perroquets, beaucoup d'arbres, en fait, et des Indiens qui coupaient ce bois et qui vivaient un peu de chasse et de pêche. Donc, la représentation cartographique, vous le voyez, est très limitée. Par contre, il y a déjà cette ligne, ce méridien, qui est le méridien de Tordesillas, qui avait été déterminé par le pape en 1494 à 300 lieues à l'ouest des îles du Cap-Vert, pour dire... Atlantique et océan Indien seront aux Portugais, et les terres découvertes au-delà de ce méridien vers l'ouest et le Pacifique seront aux Espagnols. Donc ça a été une division du monde inconnue à l'époque, mais qui a fait cette ligne qui va être représentée sur les cartes pendant 2 siècles, hein, ce méridien, mais qui est un méridien totalement artificiel et qui n'aura pas de réalité géographique, si on peut dire. Il n'aura pas de réalité géographique, mais il aura une réalité cartographique sur beaucoup de documents. Les premières représentations des noms et des contours, le nom America est apparu en 1507 dans l'Atlas de Saint-Dié, mais vous voyez, avec une forme de l'Amérique qui n'a absolument rien à voir avec la véritable. Par contre, à l'époque, on connaissait à peu près les contours de l'Afrique, les contours de l'Europe, et l'Asie est déjà assez inconnue. Donc voici de près comment avait été représenté dans le premier planisphère l'Atlas de Saint-Dié fait par les chanoines de Saint-Dié en 1507, une Amérique où on ne connaissait quasiment rien. Alors un peu plus tard, voilà, oui, un peu plus tard, la, ça c'est l'école de Dieppe, je crois, vers 1520, on commence à avoir une meilleure connaissance des côtes de l'Amérique du Nord et des côtes de l'Amérique du Sud, avec cette grande entrée pour les bateaux qui représentait l'Amazone. Et ça, ça va être très important, ce fleuve-mer qui pénètre dans les terres jusqu'à 2000 km sans grands obstacles. Ça, ça a été une voie de pénétration extrêmement aisée, hein, pour les navigateurs. Alors que du côté de terre, c'était assez difficile parce qu'il y avait des escarpements rocheux couverts de forêts tropicales, de pénétration très difficile. Si vous avez vu le Mission, le film de Joffé, il montre très bien comment les jésuites devaient gravir toutes ces montagnes pour arriver au plateau des premiers contreforts, hein, de cette Serra do Mar qui était la. Alors ceci correspond, hein, puisque c'était des grandes falaises, ça correspond à au creusement à la fissure, si vous voulez, de l'océan Atlantique. Donc le Brésil est une espèce d'énorme terre d'un vieux socle granitique, hein, qui a été cassé sur les côtés par l'ouverture de l'Atlantique. Vous savez qu'Amérique et Afrique étaient reliées, hein, jusqu'à il y a 100 millions d'années, c'est pas si vieux que ça, hein, et elles se sont écartées par la fissure centrale de l'Atlantique. Je dis ça parce que ça compte la forme du continent. Il n'y a pas de haute montagne au Brésil. Il y a des escarpements rocheux, hein, en bordure. Et sinon, ce sont des hauts plateaux avec des savanes. D'ailleurs, au bout d'un certain temps, des savanes et la grande plaine amazonienne. Donc, je reviendrai sur la dernière carte après. Donc, pour montrer que je reprends mes trois points, du 16e au 18e, l'enveloppe territoriale, un grand Brésil dès l'époque coloniale. Donc, vous voyez, sur la représentation cartographique du 16e, on a beaucoup de noms écrits sur le littoral, les côtes, chaque golfe, chaque entrée. Alors, par exemple, Rio de Janeiro, ça a été Rio, parce qu'ils voyaient une possibilité d'entrée très loin, enfin, très loin, 50 km, 60 km, mais non, c'était le fond d'une baie. Enfin, c'est resté le nom rivière de janvier, hein, parce qu'elle a été couverte au mois de janvier. Donc, et si vous le voyez aussi sur la carte du milieu, celle du XVIe siècle, il y a des divisions géométriques. Et là, ça correspondait à des donations. C'est que le roi du Portugal, le Portugal étant un tout petit pays, pas beaucoup d'habitants, il n'avait pas beaucoup de monde à envoyer là-bas. Surtout qu'il les envoyait plutôt vers l'Inde et vers le Japon. Vous savez que les Portugais sont arrivés au Japon vers 1540, quelque chose comme ça. Donc, ils naviguaient sur beaucoup de mers et ils n'étaient pas nombreux. Donc, le roi a délégué à des nobles des portions de territoire à eux de les mettre en valeur comme ils le voulaient. Hein ? Alors, une exploration lente dans un territoire peuplé par les Tupi-Guarani. Les Tupi-Guarani, c'est une population dont on commence à trouver des traces dans l'histoire en 2500 ans avant Jésus-Christ, qui étaient des chasseurs-cueilleurs et qui commençaient dans le sud surtout à faire de l'agriculture, agriculture à base de manioc, et qui ont fui un peu vers l'intérieur quand les Européens ont commencé à s'installer. Mais l'installation a pris du temps, l'exploration a été lente, hein, comme je vous l'ai dit, sauf par les fleuves. Mais sinon, sur ce littoral, ils ont cultivé du sucre sur le littoral nord, de la canne à sucre, mais vraiment sur une bande étroite de littoral. Donc, les premières représentations qui sont un peu les premières bandes dessinées qu'on a du Brésil du XVIe siècle. C'est un certain Hans Staden, qui était un marin qui avait été fait prisonnier par les Amérindiens et qui, en principe, devait finir dans la marmite, comme on disait à l'époque, hein, parce que les Amérindiens mangeaient le corps de leurs ennemis pour s'approprier les qualités de leurs ennemis. Et c'est une chose qui a beaucoup surpris les Européens quand ils sont arrivés là-bas. Et ce Hans Staden qui avait été conservé pour... Alors, ils engraissaient, enfin, vous savez que c'est raconté aussi dans un autre film, comme il est bon, mon petit français. Mais il faisait des dessins. Et il a tellement étonné les Amérindiens par tous ses dessins qu'ils lui ont laissé la vie sauve. Et il est reparti avec ses carnets. Et donc, c'est ce qu'on a de plus illustratif de ce XVIe siècle. Bon. Donc, le nom aussi, comment est-il venu, hein, puisque les Portugais l'avaient appelé d'abord Vera Cruz, puis après Santa Cruz, et puis tout d'un coup, on a vu écrire sur les cartes, vous voyez, Terre de la Sainte Croix, donc même sur les cartes françaises, et Brésil, ça commençait à apparaître, puisque le bois de Brèze venait de ces littoraux. Hein. On le voit sur cette carte de Dieppe, là où on les voit travailler le bois, exporter le bois. Le bois servait aussi beaucoup pour la construction marine. C'était donc les Portugais importaient du bois. Mais évidemment, ils étaient très jaloux de ce que les Espagnols avaient trouvé de l'autre côté dans les montagnes. Les Espagnols avaient la fameuse montagne d'argent de Potosi, hein, où il suffisait de creuser et l'argent. Donc, et qu'ils exportaient à Séville par le Panama, hein, en portant les charges dans l'isthme de Panama. Par contre, les Portugais avançaient dans les terres et essayaient de trouver quelque chose comme ça, qui soit de peu de poids et de grande valeur, et ils ne trouvaient pas. Donc, ils ont commencé leur culture du sucre, puisqu'il y avait des terres très favorables à la culture du sucre là, dans le nord du Brésil. Des terres légères, bon, la canne à sucre est un peu ce qu'on pourrait dire une mauvaise herbe, hein. Ça pousse très facilement et ça repousse dans les mêmes sols, etc. L'intérêt, c'est qu'il y a du sucre dans la tige, c'est ça qui est surtout intéressant. Et les Portugais connaissaient la fabrication du sucre qu'ils avaient appris auprès des Arabes en Méditerranée, et ils en faisaient à Madère, et là, ils ont commencé une véritable culture, enfin plantation, avec des moulins à sucre. Il y en avait plus de 200 dans le Pernambouc à la fin du XVIe siècle, et avec, comme pour s'occuper du commerce, plutôt les Hollandais étaient les maîtres du sucre pour l'Europe. L'Europe commençait à consommer du sucre. Donc vous voyez les Hollandais intéressés par ces confins, les Français qui exploraient et qui avaient un projet. Alors on va le voir, je crois que ça viendra un peu plus tard. Je vous reparlerai des Français. Donc, l'arme de la représentation cartographique. Alors ça, c'est une chose extrêmement importante pour les géographes. C'est comment les cartes sont utiles à la géopolitique, sont utiles à un État pour se positionner dans le monde ou pour se positionner par rapport aux autres. Hein. Alors, le Brésil, enfin les Portugais, si l'on veut, ont défendu, mais de façon subtile, pas en revendiquant comme ça, de façon subtile, ils ont défendu les frontières naturelles du Brésil sur le fait que le Brésil était une île entre l'embouchure de l'Amazone et l'embouchure de la Plata, et que ça faisait une frontière naturelle, et que Tordesillas, avec son méridien rectiligne, n'avait absolument rien à voir avec la réalité géographique de ce continent. Et donc, pendant 150 ans, ils ont fait des cartes où ils ont montré qu'il y avait une liaison entre le bassin de la Plata, hein, qui coule nord-sud, hein, et l'Amazone, qui coule est-ouest. Sauf que, entre les deux, alors tous les Amérindiens disaient il y a des lacs, il y a la possibilité de naviguer, etc. C'est ce fameux Pantanal, hein, qui est un marécage au centre du continent. Un marécage qui a des eaux qui fluctuent, un petit peu comme dans les pays tropicaux. Hein. À la saison des pluies, il y a beaucoup d'eau. À la saison sèche, il y en a moins. Et qui est maintenant bon, un parc de réserve naturelle avec toute une série d'animaux très spectaculaires à voir. Et qui sert aussi pour l'élevage. Hein. Au fur et à mesure que les pâtures sont découvertes avec les eaux qui baissent, on met des bœufs. Voilà. Donc, ceci n'était pas une vue de l'esprit, et les Portugais ont... Donc, voyez, toutes les cartes de 16e et 17e siècle montrent cela, mais au 17e siècle, les Portugais vont réussir à faire ce chemin. À faire ce chemin, c'est-à-dire à sortir du sud, de São Paulo, et remonter jusqu'à l'embouchure de l'Amazone, en passant par l'intérieur. Donc, c'est très important. Mais en même temps, l'intérêt était sur le littoral. C'était beaucoup plus facile de s'accrocher au littoral. Et les Français avaient... c'était Henri IV qui avait eu ce grand projet de créer une France équinoxiale à l'embouchure de l'Amazone. Il en reste quelque chose, c'est Cayenne, n'est-ce pas ? Mais l'embouchure, c'était de part et d'autre. Et la ville de San Luis do Marañón, au sud, a été fondée par les Français, mais juste après la mort du roi, en 1612, avec la volonté d'y rester. Mais ils ont été chassés quelques trois années plus tard. Mais tous les écoliers dans cette ville apprennent que la ville a été fondée par les Français. Daniel de la Touche, sœur de la Rabardière, qui a sa statue au milieu de la place centrale de San Luis, qui est maintenant une ville d'un million d'habitants quand même. Et au sud, c'était le rêve de la France antarctique, hein, autour de Rio de Janeiro, que pendant les guerres de religion, un groupe de calvinistes a exploré et s'est installé en demandant du renfort à la France pour essayer d'y rester plus durablement. Et ils n'ont pas réussi. Donc, vous voyez, la France antarctique a duré de 1555 à 1560. Donc, voilà, les éphémères tentatives pour s'implanter sur le territoire sud-américain. Par contre, les Hollandais, ils sont restés plus durablement. Ils sont restés une trentaine d'années parce que le Portugal, à la fin du XVIe siècle, a eu un problème politique grave. Toute la royauté et les nobles ont été exterminés dans une campagne au Maroc. Et donc, il n'y avait plus de roi. Et c'est Philippe II, roi d'Espagne, qui a pris la couronne du Portugal. Et pendant ce temps-là, l'avenir des colonies a été plus indéterminé. Les Hollandais ont dit, il n'est pas question qu'on coupe nos routes du sucre. Nous, on a besoin de sucre. Ça se vend bien en Europe. On en veut. Donc, ils sont venus s'installer dans ces territoires, vous voyez, qui sont en jaune sur cette carte, pour contrôler le commerce du sucre et pouvoir assurer... Alors après, quand ça a été trop compliqué, puisque les Portugais ont réussi à reprendre, les Anglais s'en sont mêlés aussi un peu, et les Hollandais sont partis à ce moment-là vers les Caraïbes. Et les Caraïbes ont été les grands concurrents du Brésil sur la production de sucre. Oui, alors pour travailler le sucre, hein, les Portugais importaient des esclaves d'Afrique. Parce que les Amérindiens ne se mettaient pas beaucoup au travail et les Portugais étaient des maîtres négriers, enfin, s'étaient occupés de ce commerce le long des côtes africaines. Et donc, ils ont commencé la traite à partir de la deuxième partie du XVIe siècle et jusqu'au XIXe. Donc voilà le Brésil hollandais, dont la ville la plus connue est la ville de Recife, hein, qui était le grand port exportateur de pain de sucre. Hein, à l'époque, c'était des pains de sucre. Et le prince Maurice de Nassau est allé sur le territoire brésilien pendant 8 ans, et il avait emmené avec lui une série d'artistes, si bien qu'on a beaucoup de représentations, alors que les Portugais n'en avaient pas fait beaucoup, mais représentations de ce Brésil colonial à l'époque des Portugais et des Hollandais. Donc on peut résumer les grands traits d'un raisonnement géohistorique dans ce type de tableau que j'appelle des tableaux un peu chronothématiques, hein, qui ont 5 entrées, une représentation géographique. Donc là, c'était la croix de Tordesillas, la croix étant avec la ligne équinoxiale et le méridien de Tordesillas, le cercle de l'île Brésil. Donc, contre la croix, le cercle a été plutôt triomphant dans cette affaire. Le milieu naturel est-il un obstacle ? Eh bien là, les frontières naturelles ont été plutôt favorables à l'extension du Brésil. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'une exploration latitudinale a été plus favorable qu'une exploration longitudinale. Alors là, on reprend l'exemple des Espagnols qui ont fait une pénétration longitudinale de Panama jusqu'au sud du Chili même. Et les Français ont fait la même chose. Ils sont allés du Saint-Laurent au Mississippi, Alors que les Anglais et les Portugais se sont accrochés sur les littoraux et ont fait une exploration lente et progressive, et c'est eux qui sont restés le plus durablement, si on peut dire. Donc une exploration latitudinale semble être plus favorable dans les Amériques, mais c'est pas vrai partout. Bon, confrontation de logique d'occupation entre les Tupi-Guarani, la couronne qui a fait des donations aux nobles pour mettre en valeur des portions de territoire, ça n'a pas très très bien marché pour la plupart d'entre eux, mais enfin, c'est l'origine des provinces et des États brésiliens. Les noms Pernambouco, Paraíba, Rio Grande do Sul, etc. sont apparus à ce moment-là. L'Église a un rôle très important. Elle accompagnait donc les découvreurs du terrain. C'était des ordres missionnaires. Les jésuites ont été particulièrement importants pour l'Amazonie, par exemple, les Carmes, les Dominicains, je ne sais plus, les Franciscains aussi, voilà. Donc, des relations avec l'extérieur, Lisbonne a été capitale de l'économie monde, puis ce fut Amsterdam et Londres. Alors, forme de peuplement, esclaves africains, économie du sucre sur le littoral et campements extrêmement précaires à l'intérieur, mais ce sont ces campements précaires qui vont permettre l'occupation du territoire. Donc, au 18e, grand changement, on trouve enfin ce qu'on cherchait depuis si longtemps, de l'or. De l'or dans le Minas Gerais, à 600 km au nord de Rio de Janeiro, vers 1710, on trouve enfin de l'or. Et de l'or, des filons d'or assez importants. Et le Brésil va être le premier producteur d'or du monde pendant 50 ans, donc c'était pas rien. Et ce or va permettre... Alors, un cinquième devait aller à la couronne portugaise, et le reste distribué dans les... Et ça va permettre l'exploration un peu plus systématique de ce... Parce que ça coûte assez cher. Alors, faire des expéditions en Amazonie, par exemple, envoyer des flottes, etc. Donc, et deuxième élément important du XVIIIe siècle, non seulement la découverte de l'or, mais aussi une espèce de révolution mathématique qui permet de mieux calculer les cartes dans le monde. C'est-à-dire qu'on ne savait pas bien calculer les longitudes, et donc les continents étaient très déformés. Et donc, pendant longtemps... Et puis, en mathématiques, une espèce de révolution au début du XVIIIe siècle a permis de mieux calculer les véritables distances par rapport au Soleil, aux étoiles, etc. Donc, on arrive à mieux marquer les limites. Et en plus, avec cette histoire de l'or et des diamants, on a trouvé des diamants aussi, la population décuple, passe de 350 000 en 1700 à 3,5 millions en 1800. Mais une population extrêmement mobile, population en dehors des Amérindiens qui n'étaient pas, eux, évidemment, tout à fait recensés. Donc ce sont ce qu'on appelle... Alors, en espagnol, on dit des conquistadors, mais en portugais, on dit plutôt des bandeirantes. C'est des gens qui suivent une bandeira, c'est un drapeau, et qui s'avancent dans l'intérieur des terres pour explorer et découvrir de l'or ce que l'on cherchait le plus. Alors, toutes ces découvertes, ces expéditions, etc., ont permis aux Portugais de faire une carte qui... Dans le traité de Madrid qui a réuni l'Espagne et le Portugal autour de ces nouvelles frontières à faire dans ce qui était de mieux en mieux connu, l'Amérique du Sud. Alors celle-ci, cette carte, est assez intéressante dans le sens où elle est très ratatinée, c'est-à-dire elle déforme, elle rapproche les affluents de l'Amazone comme ils ne le sont pas. Et vous voyez, le Chaco est une grande tache blanche, on ne sait pas du tout ce qui s'y passe. Mais les longitudes ne sont pas du tout respectées. Mais les Espagnols n'avaient rien de tel, ne pouvaient rien montrer de tel en face. Donc, en fait, les Portugais ont dit, on est là, et on a un campement avec des militaires ici, des chapelles avec des missionnaires là, etc. Donc, c'est lutis possidetis. Si on est là et que vous n'êtes pas venu dans un an, c'est à nous. Donc, ça a été discuté à ce traité de Madrid de 1750. Ah oui, alors ça, on revient sur la déformation des continents. La France a été corrigée à la même époque. C'était sous Louis XIV. Il en a été fort mécontent, d'ailleurs, parce qu'il perdait 20 km de côte parce qu'on avait projeté la France dans l'océan Atlantique, comme le Brésil avait été projeté dans l'océan Atlantique pour essayer d'échapper à ce méridien de Tordesillas, hein, mais qui donnait une très très fausse représentation de la réalité de ce continent. Donc, le 18e, le résultat de ce 18e, c'est qu'on dépasse Tordesillas vraiment très clairement, hein, et que les Portugais arrivent à prouver que l'île Brésil a une réalité, donc des convois de barques partent de la région de São Paulo et montent vers le nord-ouest et finissent par prendre le Guaporé, cet affluent de l'Amazone, qui sert toujours d'ailleurs de frontière maintenant entre la Bolivie et le Brésil. C'est la plus vieille frontière occidentale du Brésil. Et alors après, il y a un peu d'indétermination. Donc on reprend un autre affluent de l'Amazone pour déboucher dans le Grand Fleuve. Et arriver à Belém et repartir. Ils arrivent à faire ça en 2 ans. Donc ça montrait l'existence de l'île Brésil. Donc c'est une véritable percée en Amazonie. L'Amazonie n'est pas seulement ce grand courant de pénétration est-ouest, mais peut être relié avec le sud du Brésil. D'autant que la navigation à voile était assez difficile de l'embouchure de l'Amazone jusqu'à Rio de Janeiro, parce que les vents alizés sont contraires et c'était plutôt difficile de contourner dans le côté atlantique. On dirait, à l'intérieur, ce n'était pas plus facile. Hein, ça fait quand même du 15 000 kilomètres à faire. Hein, c'est quand même pas simple. Donc, ça, je vais passer, parce que je vois que l'heure tourne. L'apogée de l'époque coloniale, c'est 1720-1800, une Amérique portugaise. Alors, ils n'employaient pas trop le mot Brésil. Et d'ailleurs, je dirais presque, mais ça, il faudrait faire une étude plus précise, que c'est plutôt les Français et les autres Européens qui parlaient de Brésil. Donc, les Portugais parlaient plutôt d'Amérique portugaise, de plus en plus autonome. Hein, et le décentrement de la capitale de Bahia à Rio, on va le voir sur notre carte, puisque tout se passait maintenant autour de l'exportation de l'or, ça ne se passe plus autour de l'exportation du sucre, mais de l'or. Hein, et donc, le centre de gravité du Brésil se déplace de 2000 km vers le sud. Les logiques d'occupation, c'est donc les bandeirantes et les jésuites qui ont fini par être expulsés. Je reviendrai là-dessus. Le déclin de Lisbonne, l'alliance anglaise et le compromis avec l'Espagne. Donc tout ça a permis de faire un grand Brésil, les 8 millions de kilomètres carrés. Une économie agro-exportatrice, beaucoup sur l'or. Et côté Brésil, 2 États. Bon, il y avait un État mieux relié à Lisbonne qui s'appelait le Grand Paramaranhão, qui était plutôt l'Amazonie, et un Brésil autour de Rio de Janeiro. Ce schéma représente cette évolution du XVIIIe siècle avec la conquête vers l'ouest. La définition des nouvelles capitaineries, c'est le Mato Grosso, le São Paulo, le Rio Grande do Sul. Et comme vous le voyez en gros point, c'était la région où les jésuites avaient réussi à implanter un certain nombre de missions dans lesquelles ils espéraient sauver les Amérindiens des visées des maîtres de l'esclavage qui cherchaient à les réduire en esclavage. Mais ça n'a pas toujours été couronné de succès, d'autant que le gouvernement portugais a fini par expulser les jésuites. Donc là, ça a été la dispersion et un petit peu le génocide, disons, des Amérindiens qui a repris dans ces années 1760-70. Vous voyez aussi le déplacement de la capitale de Bahia vers Rio de Janeiro, hein, et l'exportation des minerais de l'Espagne qui se faisait de plus en plus par la Plata et de moins en moins par le Panama. Hein, donc il y a eu un peu des tensions à ce moment-là entre le Brésil et enfin entre les Portugais, disons, et les Espagnols. Bon, mais on pourra revenir là-dessus après. Donc, nous arrivons au XIXe siècle, où là, on a donc notre enveloppe territoriale qui est à peu près déterminée. Bien sûr, beaucoup de frontières en Amazonie ne sont pas clairement définies, hein, mais en gros. Hein. Et au XIXe siècle, c'est la construction de l'État. Et un deuxième phénomène qui est le maintien de l'unité. Et ce n'était pas évident, parce que qu'est-ce qui rassemblait les gens qui habitaient en Amazonie et ceux qui étaient au sud du Brésil qui faisaient de la colonisation agricole? Qu'est-ce qui rassemblait les gens de Rio avec les grands planteurs de sucre du Pernambouc? D'ailleurs, il y a eu des grandes discussions entre les élites du nord, d'est et du sud du Brésil, justement autour de l'abolition de l'esclavage ou pas. Donc le Brésil, dans cette période du 19e siècle, passe de 4 à 17 millions d'habitants. Ça paraît beaucoup, mais c'est quand même pas énorme, hein, pour un énorme continent comme cela. Donc, et vous avez à gauche le drapeau de l'Empire, qui ressemble quand même, enfin, il y a quelque chose avec le drapeau de la République, qui est le drapeau actuel du Brésil, avec comme devise ordre et progrès. Alors que le pays du Brésil est souvent un pays du désordre, mais ils ont mis dans leur devise que c'était l'ordre qu'ils recherchaient. Et le progrès. Donc voilà les grands mots d'ordre du 19e siècle. Et donc, encore un événement de l'Europe qui va avoir une très grande influence sur l'Amérique, c'est l'épopée napoléonienne avec l'expulsion de la cour portugaise de Lisbonne. Alors, les Espagnols sont restés à Madrid et se sont enfermés dans leur château, mais les Portugais ont dit non, il n'y a pas question, on ne reste pas devant les armées révolutionnaires françaises, on s'en va dans notre colonie. Et le roi, qui n'avait jamais mis les pieds dans sa colonie, s'est retrouvé à Rio de Janeiro en 1808, et il a été enchanté, absolument extraordinaire. Il a trouvé ce Brésil fantastique. Il ne voulait plus en partir, bien que la cour le pressait de le faire, le Parlement et tout. Il est resté quand même 8 ans à Rio. Et les statuts de la colonie ont commencé à changer. Ce n'avait plus été la colonie. C'était intégré dans la royauté maintenant. Évidemment, c'était la cour étant là-bas. Il est venu avec 12 000 personnes quand même, ce qui était... Et les Rio de Janeiro éclataient complètement, ne savaient pas où loger tous ces gens. Ils ont mis tous les bateaux qu'ils ont trouvés à Lisbonne et ils ont donc traversé l'Atlantique. Et il a laissé son fils, parce qu'au bout d'un moment, il a dû revenir à Lisbonne, en lui disant « Si Lisbonne exige telle et telle chose, eh bien, tu proclameras l'indépendance. » Et puis voilà. Donc c'était dans l'air du temps déjà. Et ce qui est étonnant dans l'histoire du Brésil, c'est qu'il n'y a pas eu de guerre pour l'indépendance, aucune. Il y a eu le cri du fils du roi du Portugal en disant « je n'obéis plus à Lisbonne et je proclame l'Empire ». Alors, ils ont imité, alors là, ironie de l'histoire, ils ont imité un peu l'Empire napoléonien, hein, mais avec une constitution assez souple, assez intéressante, d'ailleurs, 1824. Donc, 1822, l'indépendance, 1824, la constitution et la constitution impériale. Et il y a eu un premier empereur, mais qui restait assez peu de temps, 6 ans, et il a laissé son fils, qui, lui, était né au Brésil. Et c'est surtout ce deuxième grand empereur qui reste connu dans l'histoire, qui s'appelle Pedro II. Alors, au moment de l'indépendance, justement, Pedro II est monté sur le trône à l'âge de 5 ans. Alors, évidemment, ce n'était pas extraordinaire pour gouverner cet énorme pays. Donc, pendant la régence, il y a eu des tas de mouvements. Et le Brésil a failli se fractionner en 3 morceaux. Donc, le Grand Pará Amazonas, là, avec le Rio Negro, Maranhão, Grand Pará Amazonas, qui voulait continuer à obéir à Lisbonne, puisqu'il disait « Nous, on communique mieux avec Lisbonne qu'avec Rio, donc on n'est pas tellement intéressé. » Bon, ils ont envoyé une flotte contre Belém, ça n'a pas duré très très longtemps, mais il y a quand même eu quelques révoltes populaires. Le Nord-Est, ce qui est en rose, a dit « Mais bon, nous non plus, ça ne nous intéresse pas d'obéir à Rio, donc on va proclamer notre indépendance. » Il y a eu un mouvement, deux mouvements d'ailleurs, un peu violents, enfin, où un certain nombre de personnages ont été passés par les armes. Ça reste aussi une marque d'identité régionale pour cela. Mais on peut dire, et dans le sud aussi, vers la frontière avec ce qui va devenir l'Uruguay, il y a eu une révolte qui a été assez aussi sanglante, mais qui était liée à quelque chose d'économique par derrière. Ils ne voulaient pas payer certains impôts. Comme l'Uruguay était en train de se former au sud et qu'elle avait exempté d'impôts, donc il y avait une histoire de rivalité de frontières. Bon, je peux dire que c'est l'habileté un petit peu de l'Empire et de ce qui entourait le jeune empereur qui a fait que, ben, on laissait se développer les révoltes, mais on ne les noyait pas dans le sang. Ce qui s'est passé, par exemple, en Argentine. L'Argentine a vécu 30 ans de guerre civile au moment de l'indépendance. Parce que dès qu'il y a eu un mouvement, Bon, au Brésil, ça n'a pas été du tout le cas. Donc, on laissait faire le mouvement et puis on discutait et on disait « bon, voilà, c'est comme ça se fera comme ça ». Et c'est là où on loue très souvent les Brésiliens pour le sens de la diplomatie. Et en ce moment, sur les histoires environnementales, on leur parle de la diplomatie verte. Les Brésiliens sont très actifs dans les comités internationaux de discussion sur l'environnement. Bon, donc malgré des tentatives de révolte, etc., le Brésil est resté uni. L'Empire luso-brésilien a maintenu l'unité. Donc, et là, moi, j'avance une hypothèse, je n'ai pas vu souvent formulée, mais qui fait que, vous voyez, tout le reste de l'Amérique du Sud s'est divisé. Paraguay, Uruguay, Bolivie, Pérou, etc. Et le Brésil est resté uni. Et je vois une raison un peu géographique, c'est-à-dire que dans chaque région qui pouvait s'émanciper, il y avait un couple de capitales. C'est-à-dire deux capitales qui... Il n'y avait pas une hégémonie d'une ville qui risquait d'entraîner tout le monde. Donc, c'était là-haut, en Amazonie, c'était Belém, San Luis. Dans le nord-est, c'était Recife, Bahia. Et dans le sud, c'est Rio et São Paulo, qui étaient beaucoup, beaucoup moins importants que Rio au XIXe siècle, mais qui commençaient à faire un contrepoint avec Rio. Donc, vous voyez, aucune capitale hégémonique. Et donc, cette possibilité, ces capitales dédoublées, qui permettaient de tenir... Je vois, c'est pour ça que j'ai refait cette représentation cartographique. C'est comme une boutonnière. Ça permettait de tenir ensemble ces régions. Alors, diplomatie cartographique au moment de l'indépendance. Il a fallu, en plus, faire les limites internes et externes du Brésil. Là, il y a eu un diplomate très important, le baron de Ponte Ribeiro, qui était un Portugais qui avait choisi de rester au Brésil, et qui a... étaient œuvraient dans les cartothèques de Lima, de Bogota, pour prouver que par toutes ces cartes que là il y avait des présences portugaises et là des présences espagnoles et pour délimiter. Donc vous voyez ces zones un peu grisées qui sont les territoires contestés qui ont eu besoin d'être stabilisés au cours de quelques traités. Et vous savez que la dernière frontière, notre frontière avec le Brésil, a été déterminée finalement en 1903 par un compromis dans lequel a travaillé un géographe et qui a perdu d'ailleurs, Vidal de la Blache, qui avait formulé une hypothèse sur la frontière qui existait entre la Guyane française et le Brésil et qui n'a pas pu prouver que le fleuve qu'il désignait comme frontière était le bon, et qui était bien plus au sud que celui qui est actuellement l'Oyapock. Donc là, il y a toute une histoire que les géographes ont beaucoup étudiée, les géopoliticiens, pour savoir comment délimiter les frontières, parce que beaucoup de noms de fleuves, et personne n'était très clair sur les noms de fleuves, donc on avait du mal à définir ces frontières. Et même à l'intérieur, vous voyez les provinces, vous qui avez étudié les différents États brésiliens, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, etc., il y a eu aussi beaucoup de compromis pour faire des frontières de ces États. Donc l'Empire, c'est 1824-1889 avec Dom Pedro Ier, mais qui restait jusqu'en 1830 seulement, et Dom Pedro II surtout, et Isabelle, la fille de Dom Pedro II, qui est restée un an au pouvoir et qui a été chassée en 1890 avec la proclamation de la République. Le grand débat de la fin de l'Empire, ça a été l'abolition de l'esclavage. Alors déjà, le trafic des esclaves était interdit par les puissances européennes dès les années 1840-50 dans l'Atlantique. Hein. Et le Brésil a petit à petit procédé à l'élimination de l'abolition de l'esclavage, d'abord par la loi du ventre libre, les femmes qui mettaient au monde un enfant, les femmes esclaves qui mettaient au monde un enfant, l'enfant était libre. Puis les plus de 60 ans, ils étaient libres aussi. Donc quand l'abolition est arrivée, il restait 700 000 esclaves qui ont été libérés donc, dans un jour. Alors on a interrogé encore, au début que j'allais au Brésil, il y avait encore des personnes âgées qui avaient connu le jour de la libération des esclaves. C'était quand même extraordinaire. Donc, au premier recensement, le Brésil comptait 10 millions d'habitants, et vous voyez que la présence des Noirs dans les États brésiliens était... Bon, c'est à Rio qui en avait le plus. Hein. Donc, en 1824, 3 millions d'habitants, dont un tiers d'esclaves et un quart d'Amérindiens. Et à Rio, 45% d'esclaves qui étaient souvent des artisans. Hein. Les esclaves n'étaient pas seulement dans les plantations et dans les mines, ils étaient aussi très souvent artisans et serviteurs dans les maisons. Donc, en même temps, cette exploration territoriale... Enfin, si ça va trop vite, vous le dites. Hein, si je vois qu'il y en a qui notent, mais vous levez la main. Hein, si. En même temps, une expansion territoriale. Donc, tout ce qui est point rouge, c'est les créations des villes, enfin, ça peut être des bourgs, hein, mais qui avaient une petite structure administrative pendant l'Empire. Et tout ce qui était en noir, c'est ce qui était avant. Donc, vous voyez qu'avant l'Empire, c'était vraiment une occupation du littoral, hein, on voit très bien. Et l'Empire a eu le souci de favoriser la pénétration à l'intérieur et à l'installation à l'intérieur des terres, hein, pour faire des grands domaines d'élevage, surtout, hein, des grands domaines d'élevage, et s'y trouver des mines aussi. Donc, l'empereur a distribué des titres de baron, de comte, etc., pour favoriser cette installation de grands propriétaires à l'intérieur. Alors, vous voyez, par exemple, il y avait 780 municipios à la fin de l'Empire, et maintenant, il y en a 5500, c'est pour vous dire. Rien à voir avec nos 36 000 communes françaises, comme vous le savez. C'est... Alors, un autre élément... Oui. Pardon, vous voulez ça ? D'accord. Donc, les créations avant l'indépendance, hein, il y avait 180 créations de villes, et après l'indépendance, durant l'Empire, 595 créations de villes. Alors, villes, pas dans notre sens, hein, mais c'est que souvent, il y avait une structure administrative, un juge ou un commissaire de police ou, voilà, qui permettait de dire « là, c'est une ville ». Donc on voit la société en expansion, mais vous pouvez remarquer qu'il y a encore beaucoup d'espaces blancs, où il n'y a rien. Et moi, quand je suis arrivé au Brésil dans les années 70 pour faire mes études, il y avait encore des cartes topographiques sur lesquelles il y avait un grand point d'interrogation. On ne savait pas du tout ce qui se passait. Il a fallu attendre la révolution satellitaire pour qu'on voit enfin l'Amazonie en entier, parce que les photos aériennes ne permettaient pas de voir l'Amazonie. Il y avait tout le temps des nuages, il pleut beaucoup, donc on ne voyait pas. Donc, vous voyez, le blanc, ça correspond à quelque chose. Ça va ? Donc, un autre élément très important à la fin du 19e siècle, c'est l'arrivée massive de migrants européens. Alors, vous savez que c'était des migrations internationales. Hein, l'Europe a expulsé, on peut dire, son trop-plein de population rurale. Hein, et puis, en plus, le Brésil était très demandeur parce qu'il voulait blanchir sa population. Donc, beaucoup d'Italiens. Alors, vous voyez, ça s'est fait en deux périodes. Hein, le 19e siècle, moyennement, à peu près avec 500 000, et la fin du 19e et début 20e, avec plusieurs millions. Bon, vous savez que l'Europe, hein, il y a beaucoup de problèmes des migrants maintenant, mais l'Europe a expulsé, on pourrait dire, 33 millions de personnes dans cette 19e et 20e siècle vers les Amériques. Hein. Alors, beaucoup plus en Amérique du Nord, mais quand même pas mal en Amérique du Sud. Plusieurs millions. Et la ville qui en a le plus profité, disons, enfin qui a le plus augmenté, c'est São Paulo, qui a doublé tous les 20 ans, et entre 1870 et 1930. Hein, et ça correspondait, alors on dit souvent que c'est les cycles économiques, mais j'aime pas trop cette expression, mais disons le troisième boom économique du Brésil, c'est le café. Donc fin 19e, le café commence à être beaucoup consommé en Europe, hein, les cafés apparaissant un peu dans toutes les villes européennes, une boisson pas chère, et qui venait essentiellement de Ceylan. Enfin, l'origine est l'Éthiopie, mais les plantations, c'était les Anglais qui avaient fait Ceylan. Et une maladie a frappé tous les caféiers de Ceylan. Et donc, en mal de retrouver des terres caféières, on a fait des essais. D'ailleurs, on dit souvent que c'était dans le jardin botanique de Cayenne qu'on avait fait le plus d'essais sur les cafés et que les Brésiliens ont volé ces graines pour aller les planter chez eux. Mais enfin, bon, ça, c'est une histoire. Les histoires de vol de semences entre les pays, c'est un peu folklorique, mais ça a animé beaucoup de films et de romans. Mais le début vraiment de la grande culture du café, de la grande exportation du café, c'est 1875-1880. Et les terres au-delà de São Paulo étaient des terres violettes, terra roche, qui étaient extrêmement fertiles, et le café donnait une production extraordinaire. Des cerises de café, comme ça, très prolifiques. C'était des terrains volcaniques. Donc, voilà, ça va changer la face, on peut dire, du Brésil, pour que le Brésil rentre dans le XXe siècle. Le Brésil, qui était très rural et sur des plantations et des grands domaines d'élevage, va passer peu à peu un Brésil urbain, parce que le café, il faut le sécher, le torréfier, le mettre en sac, et l'exporter. Donc, et puis il faut avancer, parce que il faut avancer un peu d'argent aux planteurs, parce que c'est au bout de 3-4 ans que le caféier commence à produire, donc il faut attendre, etc. Alors il y a toute une organisation bancaire, négociant, etc., qui se met en place, et ça va urbaniser le Brésil. Donc le café a un rôle très important. Donc je reprends encore les itens de la... Excusez-moi, de temps en temps, je parle en portugais, mais j'ai fait beaucoup de cours au Brésil en portugais. Donc, ces mêmes cours, je l'ai fait au Brésil aussi. Et donc, les frontières naturelles sont réaffirmées par des traités négociés et des cartes. L'État impérial et les révoltes régionales contrôlées, donc ce qu'on a vu. La monarchie se déplace dans la colonie, ça on l'a vu, c'est début du 19e, et c'est la fin de la traite à la fin du 19e. L'immigration européenne, et il y a toujours un peu une opposition entre les nords et les suds. D'ailleurs, la définition des nords et des suds a été différenciée au cours de l'histoire. Donc on arrive au XXe siècle, et là, le Brésil passe de 17 millions d'habitants à 170 millions en 1880, il est à 207 maintenant, hein, mais il augmentera moins, comme vous pouvez l'observer, hein, sur les courbes de les booms démographiques. Hein. Au début, la natalité met plus de temps à diminuer que la mortalité, et donc on a un ventre dans notre courbe, là, ce qui fait qu'on a de nombreuses naissances. Et le Brésil a connu un boom démographique dans les années 1960-70. Alors, à la fin du 19e, il y a eu la République, une fédération, donc une fédération d'États, c'est une République sur le modèle un peu nord-américain, hein, avec des États fédérés, indépendants. Et ce qui apparaît pour la naissance du peuple brésilien et de la brésilianité, qu'est-ce qui fait que le Brésil est Brésil, l'identité brésilienne, c'est la nation métisse. Alors on va voir comment cette nation métisse s'est construite et se construit. Donc, on passe d'un Brésil rural, très rural, à un Brésil très urbain. Je vous ai commencé à dire que le café commençait à le faire, mais ça s'est accéléré dans la deuxième partie du XXe siècle, évidemment. Donc, l'immensité géographique... Bon, il y a eu le petit cycle du caoutchouc, on pourrait dire, juste après le cycle du café, mais c'est un caoutchouc amazonien... Donc, je reviens, je vais pas tenir là-dessus parce que j'ai pas assez. Voilà, je passe. Il y a eu des mouvements de résistance. Bon, là, c'est un petit peu folklorique, mais je sais que les étudiants aiment beaucoup ça. C'est dans les zones rurales un peu la résistance à la modernisation et la possibilité de faire une révolution. Ça correspond à la longue marche de Mao Tse-tung en Chine, qui est un petit peu plus tardive d'ailleurs, mais là ils ont fait une longue marche avec 1500 rebelles, des jeunes officiers qui voulaient que les campagnes se soulèvent pour établir un régime socialiste avec partage des terres contre les latifundios, mais le discours n'a pas marché. Voyez le tour qu'ils ont dû faire, poursuivi par l'armée, mais ça permet de comprendre un petit peu cet intérieur du Brésil, hein, ce fameux sertão. Hein, sertão, c'est les grandes savanes sèches, surtout plus on monte vers le nord, plus elles sont sèches, et une anomalie climatique dans le nord-est. Et en face d'eux, ils avaient d'ailleurs des bandits qu'on appelait les cangaceiros, mais pour montrer que cet intérieur a toujours été beaucoup plus sauvage et difficile à connaître. Alors qu'au sud, c'était des caudillos qui dominaient un peu la société, c'est-à-dire des chefs locaux. Hein, et le contestado que vous pouvez voir là, c'était la frontière entre l'Argentine et le Brésil qui n'était pas très bien délimitée. Donc il y avait des mouvements de révolte. Je voulais le montrer, mais ce qui est plus formateur de la société brésilienne, c'est cette nation métisse qui a été portée par une élite littéraire, hein, notamment à la semaine d'art moderne organisée à l'occasion du centenaire de l'indépendance, 1922, le centenaire. Alors c'était une série de grandes manifestations. Et les jeunes brésiliens disaient « Bon, on nous envoie toujours en Europe, on doit faire nos classes à Florence, à Londres, à Paris. Nous, on veut aller dans l'intérieur du Brésil, on veut comprendre ces cangaceiros, ces sertãos, ces peuples de l'intérieur, cette société rurale qui vit proche de la terre, etc. On veut comprendre ça. » Et on ne va pas se laisser absorber par les Européens, on va plutôt absorber ce que les Européens nous disent, mais en le transformant à notre façon, notre territoire. Hein, et ont lancé les jeunes anthropophages. Hein, et ils ont repris le mot que les Européens avaient utilisé pour désigner les Amérindiens quand ils les avaient rencontrés. Hein, ils faisaient des pratiques d'anthropophagie. Et donc, ils ont repris ça, hein, en disant « Nous allons réintégrer les rêves des Européens, mais les transformer à notre façon et les faire vivre à la sauce brésilienne, à la sauce d'un pays tropical, d'un pays qui a connu longtemps l'esclavage, d'un pays qui veut intégrer ces différents éléments. » Donc, autour du café, hein, comme vous le voyez, et autour des... Donc, le rôle des intellectuels, hein, dans cette recherche d'identité. Et le rôle des intellectuels a été couronné, si on peut dire, par la thèse de Gilberto Freire. Bon, c'est un livre de base sur le Brésil, hein, qui est traduit en français sous le titre de « Maîtres et esclaves ». C'est sa thèse d'anthropologie, 1933, où il dit que la force du Brésil, c'est le mélange des trois races, hein, la race blanche, la race noire et la race des Indiens. Donc les Indiens, eux, connaissent le territoire, ils sont originaires de là, etc. Les Noirs sont très adaptés aux tropiques, ils travaillent bien, ils sont courageux, etc. Et le Blanc, qui, lui, a toujours les idées pour tout le monde, mais qui n'est pas adapté du tout aux tropiques, eh ben, il doit se mélanger avec le reste, sinon il ne survivra pas. Donc c'est le mélange harmonieux. Alors, la vision de l'anthropologue, c'est qu'il est harmonieux. Et il montre comment le rôle des femmes noires dans les familles, par exemple, c'est, qui étaient souvent des nourrices et qui gardaient les liens avec les enfants de la famille, etc. Donc, tous les mélanges sociaux qui permettaient aux différentes rameaux de la race, si on peut dire, parce qu'on parlait beaucoup de race au début du XXe siècle, puis après, maintenant, on ne parle plus beaucoup de race, mais donc, on va parler de métissage. Hein. Et c'est une... Alors, évidemment, on ne peut pas penser qu'on a aboli toutes les préjugés racistes, etc. Hein. C'est pas une vue de l'esprit, mais... Par exemple, ça a été intéressant, dans les années 70, l'UNESCO a dit « mais on cherche l'idéal d'une démocratie raciale après les mouvements de décolonisation en Afrique, etc. » L'idéal d'une démocratie raciale, c'est le Brésil. Le Brésil a réussi sa nation métisse. Hein, en remettant à l'honneur le carnaval, la samba et la feijoada, le fameux plat brésilien formé de haricots noirs, riz blanc, avec du chou vert et des oranges, l'or. Hein, bon, donc tout est là pour magnifier. Et le porc, qui est la nourriture des esclaves. Donc tout est mélangé dans ce plat national. Et donc... Dans les années 70, quand on a dit on va chercher un modèle de démocratie raciale, les sociologues se sont mis à chercher comment les Brésiliens décrivent leur couleur de peau. Alors, les sociologues qui ont pensé à ça, donc en allant interviewer un certain nombre de gens, c'est une enquête sur échantillonnage, etc. Hein, et ils ont trouvé 136 couleurs de peau. Auto-définis, hein, que les gens auto-définissent. Alors, par exemple, la couleur brune, c'est morena au Brésil, mais il y a 15 sortes de morena, hein, plus ou moins claire, plus ou moins foncée, plus ou moins rouge, plus ou moins verte, plus ou moins... Voilà. Les couleurs noires, il y a aussi plusieurs noirs. Il y a du noir bleu, d'ailleurs, tellement il est noir, et puis il y a du noir clair, et il y a du noir... un peu blanchâtre, etc. Il y a donc bon, c'est toujours très amusant de discuter. Vous le verrez dans mon livre, il y a plusieurs pages de commentaires sur les couleurs de peau. Hein. Dans les recensements qui ont lieu tous les 10 ans au Brésil, il y a certaines époques où on n'a pas posé la couleur de peau parce qu'on a dit ça se fait pas, c'est pas clair de toute façon, etc. Mais maintenant, depuis les 3-4 derniers recensements, on pose la couleur de peau. Et en 2010, pour la première fois, les non-blancs ont été plus nombreux que les blancs. Donc les non-blancs, c'est tous les métis, tous ceux qui s'auto-dénominent métis, n'est-ce pas ? Donc pour la première fois en 2010, ça a été 53% de non-blancs et 47% de blancs. Je ne l'ai pas dit ici, mais il faudrait que je rajoute cette diapo. Bon, donc je vous renvoie aux pages du livre Géohistoire, hein, qui sont très claires sur les couleurs de peau. Il ne faut pas oublier donc que ce Brésil rural, qui a eu une importance jusque dans les années 1980, a été une espèce de matrice culturelle, hein, qui les gens s'identifient bien au milieu dont viennent leurs grands-parents. Même si la population brésilienne bouge énormément, hein, va travailler dans les villes du sud, Rio, São Paulo, tout le monde, à un moment de sa vie, va essayer de travailler dans cette grande métropole du sud, parce que on y trouve plus facilement du job. Hein. Mais ce n'est pas sûr qu'ils y restent. Hein. Ils reviennent souvent dans leur région d'origine ou ils s'en vont plus loin en Amazonie, etc. Hein. Donc, les éléments du Brésil rural, qui sont de moins en moins perceptibles, évidemment, puisqu'on est dans un Brésil de monde urbain, mais ont été nécessaires à cette brésilianité naissante, si vous voulez, à cette identité brésilianiste, si on peut dire, enfin brésilienne. Bon. Donc, et parallèlement, la politique des années 30 avait cette idée à l'appui d'une intégration nationale. Il faut absolument que les régions, on fonctionne comme un archipel. L'Amazonie n'a rien, ne est très isolée du reste du pays. On pouvait aller en Amazonie que par bateau, hein, parce que à pied, ça mettait très très longtemps, évidemment. Donc, il faut absolument aller vers l'Ouest, faire la marche vers l'Ouest, hein, essayer de montrer que la formation politique et nationale du Brésil doit continuer. Elle n'est pas finie. Hein. Et donc, se tourner vers la Bolivie et faire des accords, parce que c'est le centre, c'est le pivot central, on le verra après en géopolitique, ouvrir des nouvelles frontières agricoles, faire des nouvelles capitales, et ça, faire des nouvelles capitales, vous savez que ça conduira à Brasilia, mais dans les années 30, on a ouvert une nouvelle capitale dans le Goiás, à Goiânia, qui est maintenant une ville de 2 millions d'habitants, quasiment. On crée des territoires fédéraux sur les frontières, on installe un système cohérent de transport, parce qu'il y avait des bouts de transport et pas de... Et puis, on rassemble les activités cartographiques et statistiques, ce qui est important pour connaître son territoire, hein, l'IBGE, qui est le grand fournisseur de statistiques et de cartes, est créé en 1939. Donc, en plus, l'école brésilienne de géopolitique cherche à faire du Brésil un grand Brésil, un Brésil fort, donc un certain nombre de militaires, notamment, hein, ont mis au point dans les années 50, mais ça, c'était un petit peu dans l'onde de la guerre froide, il fallait qu'on fasse des doctrines de sécurité nationale, hein, mais en même temps, derrière ça, se cachait la modernisation du territoire. Hein. Donc, voilà, l'école brésilienne de géopolitique, c'est que le Brésil est un grand Brésil, et l'Amérique du Sud, c'est la région pivot du monde occidental. C'était en pleine guerre froide, hein, ça. Hein, vous voyez, avec cette représentation cartographique qui montre le Brésil au centre, hein, et les autres pays dans les périphéries, donc l'Union soviétique dans la périphérie à plus de 10 000 km du Brésil, et que si le monde occidental catholique est attaqué, le dernier bastion, ce sera le Brésil. Ça, c'était dans les années 50. Donc, et au niveau de l'Amérique du Sud, hein, le Brésil se rend compte que ce risque d'éclatement peut toujours exister, et il se rapproche de la Bolivie, hein, en disant que c'est le centre de gravité du continent, hein, qui permet de tenir toutes les pièces ensemble. Et vous, ça rappelle un petit peu ce qui va se passer dans les années 1990, le Mercosur. Hein. Essayer de regrouper les pays d'Amérique du Sud. Bon, mais ce qui est peut-être plus emblématique de cette modernisation du territoire avec une intégration de l'intérieur, c'est cette création de Brasilia, c'est-à-dire Rio est sur le littoral, toute la population brésilienne est à 80% sur le littoral, nous allons construire une capitale à 1000 km, faire avancer le Brésil de 50 ans qui avait beaucoup d'aspects de vieux pays rural avec des grands domaines et une population quasi esclavagiste, on va transformer ça pour faire des industries automobiles, des villes modernes, etc. Donc ça, c'est une avancée très rapide dans les années 56-60 avec l'inauguration de Brasilia. Brasilia, que vous voyez, bien située entre le nord-est et le sud, hein, à égale distance, reliée à toutes les capitales des États. Hein, bon, c'est une représentation fictive, hein, ça, mais ça montre bien la centralité de Brasilia. Et Brasilia inaugurait en avril 1960, au grand drame de Rio, évidemment, où on a été fermé officiellement, tous les ministères et tout ça. Rio a cru qu'elle ne se remettrait jamais de ce coup-là, et elle a trouvé du pétrole, ce qui l'a sauvée. Elle a trouvé la télévision et le pétrole. Donc Rio a été sauvé par deux choses. Et Brasilia, maintenant, est une ville de 3 millions d'habitants. Donc le pari peut être réussi, puisqu'il n'y avait rien ni personne. Hein, je pourrais revenir sur Brasilia, mais c'est un acte de géopolitique extrêmement important. Un autre acte de géopolitique, c'est l'intégration de l'Amazonie. Et pas seulement j'intègre l'Amazonie au reste du Brésil, mais j'intègre l'Amazonie avec mes voisins amazoniens. Et ça, c'était une pensée de géopolitique des militaires, hein, de faire une pan-Amazonie, ce qui existe toujours. Hein, il y a un traité de coopération entre les pays amazoniens, la France, Guyane française, est observatrice. Et donc, avec un système de routes à travers l'Amazonie, le plus connu étant bien sûr la transamazonienne, qui a été commencée en 1972, mais qui n'est toujours pas asphaltée sur la moitié de son parcours, ce qui la rend quasiment impraticable pendant la saison des pluies. Donc, il faut le savoir. Mais il y a pas mal de colonies agricoles qui se sont installées le long de la transamazonienne. Et puis, la première route, ça a été la Belém-Brasilia, la Brasilia-Belém, plutôt, hein, 2500 km, qui a été asphaltée, elle, dans les années 70. Une autre route qui a bien marché, ça a été la Caracas-Porto Velho, passant par Manaus. Alors, sauf que le tronçon Manaus-Porto Velho est tombé dans la rivière plusieurs fois, donc ça ne fonctionne toujours pas, c'est vrai. Mais Caracas-Manaus fonctionne, avec beaucoup de trous, mais fonctionne. Et la fameuse transamazonienne qui devait rejoindre le Pacifique ne rejoint toujours pas le Pacifique, parce qu'il faut traverser les Andes et faire une route dans les Andes. Alors, ils sont en train de la faire. On traverse les Andes au niveau Buenos Aires-Santiago du Chili, mais traverser les Andes au niveau, enfin faire Atlantique-Pacifique au niveau de l'Amazone, plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Puis quand ils ont fait la transamazonienne, hein, tous les affluents de rive droite de l'Amazone sont en rang serré. Donc chaque traversée de rivière, il faut faire un pont, et à chaque saison des pluies, le pont était emporté. Un pont en bois, on fait bien sûr. C'est donc un milieu très difficile. Mais évidemment, les militaires, pour détourner peut-être l'attention sur du gouvernement militaire, etc., ont projeté cette opération Amazonie pour justement éviter les mouvements étudiants à Rio, etc. Et d'ailleurs, il y a au Brésil ce qu'on appelle les universités avancées, c'est-à-dire que les étudiants, dans leur cursus, doit faire un an en Amazonie, alors que ce soit des médecins, des avocats, un an en Amazonie, pour justement connaître ce milieu-là. Et certains se marient là-bas et ils restent. Donc, en fait, ça crée une mixité quand même entre les États du Sud et les États du Nord, parce que sinon, les États du Nord étaient toujours un peu en retard. Donc, le XXe siècle se caractérise par un national-développementisme sur le plan politique et économique, avec un Brésil grand, une nouvelle capitale, une intégration régionale, une réforme agraire qui traîne toujours et qu'on remet régulièrement sur le tapis, et puis l'industrialisation par substitution des importations, c'est-à-dire on ne cherche pas à importer trop d'automobiles toutes faites, mais on cherche à les faire soi-même, et puis le Brésil se met à faire des avions, etc., dans les années 60, dès les années 60. Et la question de l'unité territoriale, c'est que le Nord-Est, comme je vous disais, les Nords sont toujours un peu plus sous-développés que le Sud. Mais la présidence Lula a un petit peu inversé cette tendance-là, Lula étant justement un Nordestin, ayant fait des politiques sociales très tournées vers le fait de réduire les écarts entre les Nords du Brésil et les Suds du Brésil. Donc voici la carte de synthèse de ce national développementisme avec cette progression. Mais comme vous le voyez, l'Amazonie est toujours moins peuplée, moins maillée, moins connectée. Bien que dans cette partie du 21e siècle, il y a déjà beaucoup de connexions qui se font maintenant par l'électricité sur les centrales hydroélectriques. Je peux répondre à des questions sur les centrales hydroélectriques en Amazonie si vous voulez. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour laisser la place aux questions si vous voulez.
Oui. Alors, est-ce qu'il y a une première question? Peut-être à l'oursine. Alors, il faut que je leur donne le son.
Qui va oser se lancer? La première question est la plus difficile. Donc ça approche les 2 millions.
Et Manaus.
Aussi. Elles sont presque équivalentes. Ouais. On a dit d'ailleurs que Manaus avait un peu vidé l'état d'Amazonas, que tout le monde était attiré par cette ville. Et c'est vrai qu'elle s'étend dans la forêt. Elle s'étend dans, beaucoup dans la forêt. Elle,
Excusez-moi. À votre gauche. Excusez-moi.
Oui.
Vous souhaitiez ajouter quelques mots sur les centrales hydroélectriques en Amazonie ?
Je souhaitais pas, mais...
Ça peut être intéressant.
Quelle est votre question ?
J'ai aucune question, juste un thème. Peut-être que vous pourriez l'aborder rapidement. Ça pourrait être intéressant.
Alors, voilà. On a fait des grosses centrales hydroélectriques en Amazonie, justement au moment des militaires, pour fournir des grandes quantités d'électricité pour des centrales... pour la transformation de l'aluminium, de la bauxite en aluminium, qui exige de grandes quantités d'électricité. Mais à ce moment-là, on a fait des barrages à la traditionnelle, c'est-à-dire des barrages verticaux, où vous mettez les turbines en verticale, vous êtes obligé de faire un très grand mur de béton, et vous retenez énormément d'eau derrière. Bon, quand on fait ça dans les Alpes, on n'a quand même pas des gens, mais en Amazonie, le premier barrage qu'ils ont fait, c'était 2500 km² de forêt ennoyée par un lac. Alors, ça a soulevé beaucoup de contestations chez les écologistes. Surtout que le premier barrage, il fournissait énormément d'électricité, mais les deux autres qui ont été faits dans des régions plus basses ennoyaient une grande partie de forêt, mais sans fournir énormément d'électricité. Donc là, dans les années 80, on a décidé, on arrête tout programme hydroélectrique en Amazonie. Sauf qu'on a équipé le sud du pays, toutes les rivières possibles au sud. São Paulo et le sud du Brésil augmentent de 5% leur consommation d'énergie électrique, 5% par an. C'est pas comme nous, hein. Nous on stagne un peu, puisqu'on nous dit de faire très attention à notre électricité, tout ça. Mais au Brésil, c'est un pays jeune qui s'équipe, et donc à un moment, il y a une énorme panne à São Paulo en 2001, et on a dit c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Le Brésil est très vertueux, hein. 80% de son énergie électrique est renouvelable. Et de sa matrice énergétique, 45%. C'est le pays le plus d'énergie renouvelable au monde. Grand pays. Hein. Je ne prends pas un petit pays, évidemment. Et donc, on a arrêté de faire des centrales hydroélectriques en Amazonie. Mais à partir des années 2005-2006, on a repris.
Est-ce qu'il y a des questions à l'oursine ? Oui ? Alors, parlez dans le micro, si vous avez... Oui, oui.
Je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé sur la transition démographique au Brésil. Quand est-ce qu'elle a eu lieu et comment ça s'est passé ? S'il vous plaît, merci.
La transition démographique au Brésil a eu lieu à peu près dans les années 70, au début des années 70. Donc ça voulait dire que dans les années 60, les femmes avaient encore en moyenne 6 enfants, en moyenne, hein. Pour les femmes en âge de procréer, 6 enfants. J'ai interviewé beaucoup de femmes qui en ont eu 18, 20, et la moitié étant vivant. Bon, ça, c'est l'ancien régime démographique, d'accord ? Et pour établir un nouveau régime démographique, il faut une ou deux générations. L'urbanisation d'abord, hein, puisque en ville, on vit dans des espaces beaucoup plus petits, plus étroits, et on fait moins d'enfants. C'est à la campagne qu'on en fait beaucoup. Et ensuite, bon, les enfants, avec les révolutions médicales, mouraient moins. Donc on avait beaucoup plus d'enfants, alors qu'avant, ils mouraient quand même pas mal. Hein. Et donc le Brésil a un taux de reproduction à peu près comme le nôtre. Hein, maintenant, 2 enfants en moyenne par femme. Donc il a fallu à peu près 50 ans. Ça ne s'est pas passé par des grandes campagnes de stérilisation. Un petit peu dans les années 80... Un petit peu, on demandait aux femmes, après leur troisième accouchement, si elles voulaient ligaturer les trompes. Ça s'est fait à une époque. Je crois que ça se fait moins maintenant, puisqu'elles ont moins d'enfants en moyenne. Donc voilà, 50 ans pour faire la transition démographique à peu près. C'est 2 générations en moyenne. Ouais.
Une question ici.
Vous avez dit que l'afflux de migrants venant d'Europe était fait pour blanchir le pays, entre guillemets. Et donc, je voulais savoir si justement l'origine du métissage qui fait donc la force du Brésil vient d'une démarche de diluer ou de faire triompher une dite race blanche, comme en Australie à la même époque avec la génération volée, ou ça vient d'une vraie volonté de mélange ?
Ça, c'est une question qui mériterait beaucoup de recherche, je pense. Hein. Le blanchiment est plutôt une expression qu'on trouve à la fin du 19e, auprès des élites de Rio et de São Paulo. Et alors, le pragmatisme des élites paulistes, par exemple, c'est... on pourrait peut-être importer des jaunes, des Asiatiques. Les Asiatiques travaillent bien. Et à Rio, ils ont dit non, on ne va pas encore importer un autre peuple, ça va être trop compliqué. Donc, São Paulo a fait un accord avec le gouvernement japonais. Et 200 000 Japonais sont venus au Brésil entre 1900, l'accord officiel est 1907, je crois, 1907 et 1930, il y a 200 000 Japonais qui sont venus. Alors, c'était du surplus des campagnes japonaises, hein, puisque l'agriculture japonaise passait par un processus de modernisation, ils avaient trop de monde dans les campagnes. Et alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'ils sont à la troisième ou quatrième génération, hein, les Nissés, ils sont très intégrés au Brésil, mais enfin, il y a quand même un quartier japonais. Et ils ont fait beaucoup de cultures de légumes, ce que ne faisaient pas les Portugais, ils étaient très mauvais dans les légumes. Donc, les ceintures vertes des grandes villes sont tenues par des coopératives à l'origine de Japonais, mais enfin, qui sont brésiliens maintenant. Et ce qui est assez marrant, c'est que le Japon recherche de la population maintenant, et que donc les descendants vont travailler au Japon. Et alors, ils s'entendent pas du tout avec les Japonais, ils ne retrouvent rien, ça ne va pas du tout. Les quatrièmes générations brésiliennes, mais qui ont l'air tout à fait japonais, n'arrivent plus à vivre au Japon. Donc ils vont faire de l'argent, puis ils reviennent. Mais bon, voilà, ça, c'était l'importation. Alors, début du XXe siècle, ça a duré. C'est une réponse. Hein. On a fait venir des peuples de l'Asie. Comme au Pérou, il y a pas mal de Chinois qui sont venus, à peu près à cette époque. Hein. Mais à partir de la guerre 14, la guerre 14 a quand même été un traumatisme pour tous les pays américains de voir la décadence de l'Europe. L'Europe est tombée par terre. L'Europe qui a entretué sa jeunesse, hein, elle est tombée de son piédestal. C'était une barbarie effrayante. Comment est-ce qu'on peut encore regarder vers l'Europe ? Et c'est pour ça qu'après, ils se sont retournés vers leurs racines américaines en disant « c'est pas vers l'Europe qu'on aura la solution ». Puisque la barbarie de la guerre 14 a été terrible.
C'est une question ?
Oui, il y a une question. Oui.
Je voulais savoir si vous pourriez revenir sur notamment la fin de la dictature au Brésil, savoir comment ça s'est passé et ensuite s'il y a eu des fractures politiques qui se sont opérées ou pas du tout, si c'est plus nuancé, et ainsi de suite. Merci.
Oui, alors bon, la question politique est encore une question importante. C'est vrai que les militaires ont pris le pouvoir en 1964, ils ont durci, ils ont redonné un cours de vis en 68 et ils ont été assez dictatoriaux, si on veut, dans les années 70. Parallèlement, l'Argentine avait aussi un régime militaire, mais ils ont été beaucoup moins durs, si on peut dire, qu'en Argentine. Hein ? Ils ont... il y a eu 2000 disparus pendant le régime. À partir du début des années 80, les militaires se rendent compte que le régime politico-économique qu'ils ont mis en place ne tient plus. Grandes manifestations de rue. Et ils décident de laisser la place. Et on peut dire, il y a eu des grandes manifestations de rue, mais rien de très sanglant. Ils ont laissé la place, on peut le dire. Et ils ont ouvert à un régime démocratique en 1984, assez naturellement. Hein ? Alors, c'était une démocratie avec deux partis autorisés, etc. Alors que pendant la période des militaires, il y a eu un moment où il n'y avait plus de parti du tout, ils ne voulaient plus de parlement, ils ne voulaient plus de... Bon. Mais résultat, la démocratie brésilienne, qui a toujours l'art de la conciliation, etc., les hommes politiques brésiliens changent en moyenne 3 fois de parti pendant leur carrière politique. En moyenne. Et il y a 30 partis au Brésil. Alors, si vous arrivez à vous y retrouver, il y a entre 20 et 30. Il en est des nouveaux, il en meurt d'autres. Même le PT, qui paraissait l'exemple, le Parti des travailleurs, qui paraissait l'exemple du parti exemplaire, eh ben, il y a déjà la fraction gauche qui est sortie, la fraction centre qui est sortie. C'est bon. Donc, à force de faire des compromis, on arrive à une structure démocratique, mais qui est presque inaudible. Hein ? Donc, je ne sais pas. La transition s'est faite doucement. Hein ? L'année, qu'est-ce qu'on peut dire ? La décennie perdue, c'est la décennie 80 sur le plan économique, mais elle a été gagnée presque sur le plan politique avec l'expression de la démocratisation. Hein ? Puis après les années 90, il a fallu lutter contre l'inflation et refaire un système monétaire pour tenir le coup. Et puis les années 2000, ça a été les politiques sociales pour diminuer les écarts entre les classes sociales et les régions. Hein. Mais on est toujours dans un Brésil à 200 millions d'habitants maintenant et dans un Brésil qui doit encore se moderniser. Hein. Alors, s'il y a une classe moyenne de 120 millions de personnes, il y a encore 70 millions de pauvres. Alors, bon. Je prends aussi toujours cette comparaison. La France et le Brésil avaient la même population en 1940, 40 millions d'habitants. C'est très facile à retenir. La France et le Brésil avaient la même population en 1940, 40 millions d'habitants. Le Brésil, ils sont 200 millions, nous sommes 65 millions. Donc, et on a le même PIB, on a eu le même PIB à un certain moment. Bon, si on partage un PIB hein, pour 40 millions d'habitants, ou pour 60 millions d'habitants plutôt, et pour 200, vous voyez, donc le Brésil a toujours des investissements à faire pour sa jeunesse, pour... Oui, puis pour répondre à l'autre question démographique, on dit que le Brésil est actuellement dans une fenêtre d'opportunité démographique, c'est-à-dire il a peu de vieux, il doit avoir 6 ou 7% de plus de 60 ans, il a peu de jeunes, puisqu'il est déjà en transition démographique, et il a une classe en âge d'activité qui est nombreuse. Et c'est ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité démographique. S'il veut avancer et produire, c'est maintenant qu'il doit le faire. Puisque après, il aura le poids des vieux à tenir. Et les jeunes, il n'y aura plus de jeunes pour payer pour les vieux, comme chez nous.
Est-ce qu'il y a d'autres questions à l'Oursine ou pas ? Oui, encore une question qui arrive.
Je voulais savoir si, au-delà des défis sociaux qui restent encore au Brésil, est-ce qu'il y a d'autres critères qu'il a à remplir avant d'être considéré comme une puissance au même titre que l'Allemagne, la France, les États-Unis, ces autres pays qu'on appelle puissance.
Brésil a été jusqu'à la 7e puissance économique du monde, hein. En 2010-2011, bon, maintenant il a rétrogradé puisqu'il est en période de récession, mais le Brésil est quand même dans les grands pays, on ne peut pas le nier. Alors, grande puissance, nous on est une vieille puissance, alors je ne sais pas, c'est dans les 10 premières économies du monde. Alors voilà, où est-ce qu'on s'arrête dans les 10 premières économies du monde ? Bon. On a dit le Brésil est un pays sous-développé. Moi, j'ai connu le Brésil un pays sous-développé dans les années 70. Bon, il est passé à un nouveau pays industriel puisque il avait quand même une grande production industrielle dans les années 70-80. Il est passé à un pays émergé qu'on a appelé au début des années 2000. Hein. Il émerge dans la réalité du monde. Émergent, et maintenant on dit que c'est un pays émergé. Vous avez vu le livre de Hervé Théry, c'est un pays émergé. Donc voilà, tous les 10 ans, il change un petit peu de statut.
Est-ce qu'il... Je poserai peut-être une question par rapport à ce qu'on appelle la mondialisation. Vous n'avez pas parlé du Mercosur, mais peut-être dire un peu que cette mondialisation, il en a été plutôt bénéficiaire ou pas.
Qu'est-ce que... que vous appelez bénéficiaires. Enfin, le Brésil n'est pas très intégré dans l'économie mondiale. Je crois qu'il fait 2% dans le commerce extérieur. C'est pas un pays très très intégré. Enfin, son principal partenaire maintenant c'est la Chine depuis 2009, alors qu'auparavant c'était l'Union européenne et les États-Unis. Bon, maintenant c'est la Chine. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais il vend énormément à la Chine du fer et du soja essentiellement. Et il s'intègre de plus en plus dans la mondialisation, mais ce n'est pas un pays très mondialisé. D'accord. Il n'est pas dans les... Enfin, je veux dire, par rapport à la Chine, où, il n'est pas encore un pays très, très mondialisé.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Attends.
Un mot sur les religions au Brésil ?
Alors, le Brésil est un pays très religieux. 72% de la population se déclare encore catholique. 72% catholique. 26% pentecôtiste. Enfin, tous les mouvements du protestantisme. Et cette proportion augmente très vite depuis 20 ans, terriblement. Surtout dans les quartiers populaires. Vous voyez des temples partout, les temples du septième jour, l'assemblée de Dieu. Et maintenant, ces pentecôtistes ont un groupe parlementaire. Hein, et ils ont une importance grande. Alors que l'Église catholique... Bon, tous les Brésiliens se disent... On ne peut pas dire au Brésil qu'on ne croit pas en Dieu. Il y a un homme politique qui l'a dit. Eh ben, il est resté au placard pendant un certain nombre d'années. On ne dit pas qu'on ne croit pas en Dieu. Donc voilà, c'est une référence. Hein. L'Église catholique est peut-être moins présente qu'elle n'a été, parce que par exemple, sous le gouvernement des militaires, l'Église catholique était la seule force d'opposition, la seule force sociale d'opposition qui a créé des communautés ecclésiales de base, qui a fait des mouvements sociaux intéressants, formant beaucoup de leaders. Mais l'Église catholique perd un peu de son importance un peu partout dans le monde, mais enfin... Le Brésil est un pays très catholique, oui, ça c'est sûr. Ils disent les plus catholiques du monde, hein, en nombre, parce que 70% de 200 millions, ça fait quand même pas mal de monde. Oui.
Moi, c'était au sujet du sort de l'Amazonie, s'il était possible d'allier sa conservation et en même temps son exploitation, qui devient de plus en plus systématique.
Alors, je sais pas si j'ai ma
carte. Et j'ai une deuxième question après.
Oui. Allez-y. Donc voilà, l'exploitation, regardez, pour l'Amazonie. Donc voilà, le mouvement de progression du front pionnier, hein, du sud du Brésil, qui progressivement s'avance dans les savanes et arrive en Amazonie. Et la réponse amazonienne, c'est on fait des aires protégées, des terres amérindiennes. Hein, donc il y a actuellement 50% de l'Amazonie qui est en aire protégée, écologie d'un côté, amérindien de l'autre. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elles sont exemptes de toute pénétration, etc. Hein, mais voilà. Donc il y a eu un zonage de l'Amazonie qui est en train de se faire. La frontière débridée se ferme, hein, et on ne peut plus faire tout ce qu'on veut. Il y a encore des terres en blanc sur les territoires amazoniens qui vont être définies petit à petit. Hein, mais on peut dire que le sort de l'Amazonie est en train de se jouer, c'est vrai, mais qu'il y a le sud de l'Amazonie est quand même touché par des mouvements de front pionnier, mais le nord, c'est-à-dire tout ce qui se trouve au nord du fleuve Amazon, apparemment, ça pourrait être sauvegardé. Surtout tout ce qui est frontière avec le Venezuela et la Colombie.
Et après, une autre question plus personnelle, mais comment vous est venue votre passion pour le Brésil ?
C'était d'abord une passion sur la géographie du développement, parce que quand j'ai fait mes études, on parlait beaucoup de sous-développement, les pays sous-développés, et nous, on était dans des pays développés, alors ça voulait dire quoi ? Et donc, les phénomènes de sous-développement, bon, c'est toute l'histoire d'Yves Lacoste, tous ceux qui ont étudié un peu la géographie ont dû voir son nom circuler à l'époque. Hein, et je pensais partir travailler en Afrique, mais en Afrique, il y avait un comportement un peu néocolonial de la part des Français. Donc, c'était. Puis quand vous êtes une femme, c'était encore un peu plus gênant, je dirais. Donc, je suis partie sac au dos en Amérique du Nord et puis en Amérique du Sud. Et j'ai vraiment senti que c'était là que les vraies questions géographiques se posaient pour moi. Alors que je suis d'une vieille région industrielle, je suis du Nord de la France. Hein, je n'étais pas une vieille région très densément peuplée et très industrielle. Et je suis partie dans les grands espaces et j'ai travaillé sur l'ouverture des routes amazoniennes dans les années 70. Donc, vous voyez, le programme des militaires, j'ai accompagné... Et c'était tout autre chose, mais je sentis que c'était ça qui me correspondait. Si, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais
est-ce en deux mots. D'autres questions à l'oursine, oui, peut-être, non? Alors, il faut parler près du micro. Si vous avez... Voilà, ça va, oui.
C'est parce qu'on avait tendance à dire qu'à ses débuts, le Brésil était un pays sous influence, donc surtout sous influence américaine. Est-ce que, en tant que pays émergent, vous pensez que le Brésil reste un pays sous influence, par exemple, sous l'influence de la Chine maintenant ?
Ah non, sous l'influence de la Chine, sûrement pas. L'influence des États-Unis, les États-Unis fonctionnent comme un modèle. Hein. Donc voilà, on a... Mais comme je vous ai dit, pour le Brésil, pendant très longtemps, c'est l'Europe qui était un modèle. Hein. Bon, et puis le modèle européen, c'est peu à peu, c'est peu à peu un peu tombé en 18. Et je pense que le modèle américain tombe un petit peu aussi de son piédestal. Et justement, les Brésiliens veulent faire l'union des nations sud-américaines. D'ailleurs, ils parlent plus beaucoup de l'Amérique latine. C'est intéressant, puisque l'Amérique latine, c'est un terme que nous avons créé, nous, les Européens, dans les années 20-30. Hein. Et les Brésiliens, ils ne sont pas très favorables à ça. Donc, ils parlent plutôt de l'union des nations sud-américaines et regrouper les pays de l'Amérique du Sud face aux grands géants de l'Amérique du Nord, bien sûr.
Ce que je pensais par influence, c'est-à-dire influence, je parle de l'économie, est-ce que le Brésil a une certaine dépendance maintenant avec la Chine, comme celle qu'il avait connue alors avec le pays qui cherche à s'émanciper, les États-Unis?
Non, on ne peut pas dire qu'il cherche à s'émanciper, parce que vous voulez dire du modèle, mais c'est du modèle économique. Mais bon, le modèle économique américain, et justement, je pense, nous, dans notre laboratoire, on était un laboratoire de l'Amérique latine et on est devenu un laboratoire des Amériques. C'est-à-dire qu'on travaille sur les deux Amériques et sur la caractéristique américaine, qui est, une caractéristique continentale américaine qui se définit, bon, certes, il y a une histoire différente au nord et au sud, mais c'est des pays jeunes et qui ont, face à leur occupation de l'espace, des attitudes similaires. Alors je pense que le modèle chinois n'a absolument rien à voir. Même s'il y a des colonies japonaises au Brésil, elles se sont américanisées. Elles se sont américanisées. Il y a des exemples d'ailleurs, je pourrais en citer. Mais voilà, je pense qu'on est plutôt dans la définition d'une américanité et d'une brésilianité, je tiens là-dessus, la brésilianité existe. Et vous avez pu le voir au moment des Jeux Olympiques, j'imagine que vous n'aviez pas pensé que le Brésil était comme ça. Il y avait une autre question ?
Oui. vous avez dit que lors du recensement de 2010... 53% des Brésiliens s'estiment métis. Mais est-ce que ce n'est pas le fait que d'anciens blancs s'estiment maintenant métis ? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui peut expliquer ce revirement de...
Oui, mais l'autodénomination est comme ça. Hein. Il y a des gens qui vous diront qu'ils sont métis, et on ne dirait pas du tout, etc. Et d'autres qui vous diront... Bon. Donc, c'est vrai qu'à un moment, dans la nation brésilienne, on valorise le métissage. Parce que, bon, sous les tropiques, les blancs comme moi, on est un petit peu rougeaux et on est un peu des ajeitades, ou comment dire, au Brésil, on n'est pas tout à fait à notre place, quoi. Et les métis, ils sont beaucoup plus à leur place, ça, c'est certain. Voilà, on a magnifié le métissage, mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pas tout à fait, non. Je me souvenais plus du deuxième élément de votre question.
C'était s'il y avait eu un revirement de conscience chez les anciens, enfin ceux qui s'estimaient anciennement blancs et à présent métis, parce que le changement est arrivé assez tard. Mais si ça vient avec la justement le.
Oui, enfin c'est pas si parce que entre chaque recensement, il y a 10 millions d'habitants de plus. Hein, alors bon, c'est les nouveaux quoi. Hein, puisque le Brésil augmente à peu près de. Oui, c'est ça, à peu près de. Même plus, 15 millions entre deux recensements. Donc, en fait, c'est toujours des nouvelles populations. Et le métissage est une réalité. J'ai dit non-blancs. Hein. Alors, dedans, il y a des noirs, des métis, des... il n'y a plus. Mais c'est les non-blancs. Il y a encore une question, oui.
Oui, une question, s'il vous plaît. C'est, vous avez parlé de pays émergés. J'aimerais rebondir là-dessus, puisque si on prend aujourd'hui une carte du Brésil, nous voyons très bien que tout se concentre sur le ruban atlantique, qu'il n'y a pas de vrai programme urbanistique et géographique au Brésil, et notamment sur l'aspect économique. Enfin bref, est-ce que vous pourriez développer cette notion de pays émergé alors que son intégration dans le pays des BRICS laisse à porter que le Brésil est notamment un pays émergent et non pas émergé. Donc en quoi peut-on dire que c'est un pays émergé?
Bon, c'est mon collègue Hervé Théry qui a employé l'expression, hein, parce que les écarts entre les régions rurales et les régions urbaines s'amenuisent. Enfin, je veux dire, bon, le fait de la présence de Brasilia, vous le voyez même sur cette carte, on voit qu'il se passe quelque chose au centre du Brésil. On voit qu'il y a une capillarité vers les intérieurs qui se fait quand même. Et l'Amazonie est passée de 5 à 25 millions d'habitants hein, depuis l'ouverture de la Transamazonienne. C'est quand même... Donc, l'émergence se fait. Alors, émerger ou en émergence, je crois que les deux expressions sont valables. Hein. Il y avait une... Oui.
Du coup, à l'aube du 21e, un moment où les gauches mondiales se sont un peu essoufflées, le Brésil et le Venezuela sont apparus comme de nouveaux modèles de gauche dans le monde. Et un nouveau souffle, et cette place de presque leader mondial de la gauche, comment elle s'est structurée fondamentalement, sur quoi elle peut reposer, est-ce qu'il y a une véritable prise en compte de cette place-là par la sphère politique ou sociale?
Bon, c'est toujours difficile d'utiliser les termes gauche-droite, même en France d'ailleurs, mais bon... Lula de gauche, oui d'accord, mais quand il est arrivé au gouvernement, il ne faut pas oublier que Lula, il avait fait 3 campagnes, c'était à la 4e qu'il a été élu président, hein. Il avait fait 3 campagnes où il avait fait des très bons scores d'ailleurs. Bon, c'était un leader syndical, il était très gauche dure si on veut au début, mais petit à petit il a compris que pour conquérir le pouvoir il fallait qu'il soit je ne dirais pas gauche molle, mais gauche socialiste bon teint. Donc, un leader de gauche à l'égal du Venezuela, non. Je ne suis pas d'accord sur cette expression. Alors, c'était une gauche socialiste, d'accord, si vous voulez. Mais, et vous pouvez regarder les deux gouvernements de Lula, hein, entre son premier mandat et son deuxième mandat, il a beaucoup changé de politique économique, ça je peux vous le dire. Donc, non. C'est pour ça, les expressions gauche, il faut manier avec beaucoup de précautions. Beaucoup de précautions.
Plus de questions? Si? Non? À l'Oursine, peut-être? Non? Bon, ben, on... Pardon? Bien. Bon. Ben, on peut applaudir une dernière fois Mme Morlaix et la remercier. Voilà.